Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour, l'adrénaline lui va bien. Un physique d'héroïne hitchcockienne, les neurones très affûtés, un mental d'acier. Ah, méfiez-vous des blondes qui sourient et sont en réalité des brunes à poigne. Telle est Laurence Ferrari, journaliste politique, mais pas que. Car lorsqu'elle n'officie pas dans la soirée sur CNews, du lundi au vendredi avec Punchline et ça se dispute, eh bien elle est sur Radio Classique, de midi à 14h, pour partager son autre passion, la musique. Et c'est la musique qui l'entraîne à Annecy, du 28 au 31 août, pour le festival Variation Classique, qui lui a donné carte blanche.
Europe 1.
Bonjour Laurence Ferrari.
Bonjour Isabelle.
Alors, chère Laurence, il faut travailler, sinon par goût, au moins par désespoir, puisque tout bien réfléchi, travailler est moins ennuyeux que s'amuser. Vous la connaissez, voilà cette phrase extraite du journal intime que rédigea donc en 1887 Charles Baudelaire, et qui figure cette phrase sous le portrait de Baudelaire que vous offrit, il y a longtemps de ça j'imagine, votre père. Travailler est moins ennuyeux que s'amuser. C'est finalement une analyse de votre hyperactivité.
Je pense que cette phrase résume effectivement ce que je suis. S'amuser, c'est assez vain, c'est assez futile, c'est très agréable, évidemment, je le fais, mais travailler, finalement, du moins par goût, sinon par désespoir, je trouve que ça résume bien cette dualité qui m'anime et qui est comme cette locomotive, cette énergie que j'ai en moi depuis que je suis toute petite et dont je ne savais que faire quand j'étais enfant et qui, enfin, a trouvé sa réalisation dans le métier que j'exerce avec bonheur depuis une trentaine d'années, le métier de journaliste.
Impossible à imaginer depuis 30 ans, alors qu'on dirait qu'elle a 30 ans. Le travail porté par une légitime ambition, j'imagine aussi que ce sont peut-être les valeurs de votre famille italienne, vous dont le papa, principal de collège, fut pendant 10 ans, je crois, le maire d'Aix-les-Bains et député de Savoie, c'est ça?
Absolument, je suis d'une famille d'immigrés italiens. On est arrivés, mes grands-parents sont arrivés entre les deux guerres, sans parler un mot de français. Ils ont mis leurs enfants à l'école de la République. Mon père est devenu professeur de français, latin, grec et voilà, moi je suis devenue journaliste. Donc nous, on est l'incarnation de cette réussite à la française grâce à l'école de la République. Donc oui, le travail et l'honnêteté, c'est les deux valeurs cardinales que m'ont transmises mes grands-parents et mon père également.
Alors, ce portrait de Baudelaire, offert donc par votre papa avec cette phrase qui vous correspond si bien, tout bien réfléchi, travailler moins ennuyeux que s'amuser, il est accroché dans votre bureau à CNews ou bien il est dans celui de Radio Classique?
Il est dans mon bureau à la maison, en réalité, parce que c'est très intime, voilà, et ouais, que ça appartient à mon père. Mais je l'ai presque tous les jours sous les yeux, avec la photo évidemment de mon père qui est mon idole. Et c'est un moteur, c'est un carburant. Et à chaque fois que je la lis, je me dis mais oui, évidemment. Bien sûr que c'est
ça. Bien sûr. Je vous ai entendu un jour confier Laurence Ferrari. Comme d'ordinaire, c'est moi qui pose les questions. Et bien, quand il s'agit de répondre, j'ai le sentiment d'être peut-être un peu moins douée. Moi, je ne trouve pas du tout. Mais vous dites Merci. Ça parce que c'est le pli pris par des années à diriger un journal télévisé. C'est de la coquetterie ou bien il s'agit d'une vraie pudeur?
Je crois que c'est une vraie pudeur. Poser des questions, c'est plus facile pour se cacher. Évidemment, on se met à nu lors des réponses parce qu'il faut être authentique quand on répond à des questions comme les vôtres. Donc oui, c'est une vraie pudeur. C'est plus facile, encore une fois, d'être l'intervieweuse que d'être l'interviewée.
On demande souvent aux femmes humoristes, de Florence Foresti à Caroline Vigneault, en passant par Bérangère Krief, Nora Hamzaoui ou Laurence Arnay, si la beauté ne rend pas illégitime une femme qui veut faire rire. Alors bien sûr, votre précaré à vous, il est très 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 différent puisqu'il s'agit de journalisme politique, mais est-ce qu'au début de votre carrière, Laurence Ferrari, vous avez ressenti cette interrogation face à des compétences qui sont absolument indiscutables, mais qui sont enrobées, moi j'ai envie de dire, par le physique de Grace Kelly?
Ah, c'est adorable. Non, parce que en fait, je suis tombée amoureuse d'un média qui s'appelle Europe 1, une radio. Je me souviens encore, Isabelle, du moment où les portes vitrées de cette rédaction se sont ouvertes devant moi. J'avais 21 ans, ouais. Je venais en stage d'observation, et je suis tombée en amour avec cette maison et en amour avec ce métier. Et donc je me suis dit, c'est ça et ici. Et au fond, j'étais une jeune provinciale qui ne connaissait rien à la capitale, rien au journalisme, qui était un peu joufflu, un peu mal habillé, mal fagoté. Et finalement, je suis rentrée dans ce métier-là par passion, par amour. Et le physique n'a jamais compté pour moi. Mon image, je ne l'ai jamais vraiment calculée.
C'est-à-dire qu'en radio, on ne voyait pas que vous étiez ravissante.
Donc c'est pour ça, j'ai fait 10 ans de radio avant d'un jour me dire, tiens, pourquoi pas essayer la télé. C'est une autre façon d'exercer ton métier et qui me paraît intéressante.
Alors, je disais tout à l'heure que vous aviez un mental d'acier. Bon, dans l'exercice des interviews politiques, est-ce que le devoir d'impertinence n'était pas pour vous, je parle au début hein, de votre carrière, n'était pas pour vous plus nécessaire encore que pour celle dont le physique est moins avantageux. Parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas de vraie carrière de journaliste politique sans impertinence manifeste, même si elle est calibrée.
Oui, et puis ça correspond...
Faut faire la différence.
Oui, mais l'impertinence correspond aussi fondamentalement à ma nature. Sinon, on ne peut pas se forcer à être impertinent.
Vous êtes impertinente.
J'ai toujours été, alors, un peu insolente même quand j'étais plus jeune. Mais l'impertinence, oui, elle coïncidait parfaitement avec l'exercice de l'interview politique. Mais aussi, après, j'étais parfois aussi assez inconsciente. Il y a des moments où j'ai été très impertinente et peut-être un peu inconsciente. Mais c'est ça aussi qui fait que j'ai progressé pas après pas, en me disant toujours, faut aller toujours un tout petit peu plus loin dans ce métier. Voilà, poser la question qui dérange et jamais hésiter à la poser.
Laurence Ferrari, que fait-on de ses convictions pendant 30 ans de journalisme politique ? Parce que forcément, on en a.
Oui, on les met sous le boisseau et en même temps, on les exprime. Là, je suis dans un exercice où je peux exprimer mes opinions, pas politiques, mais en tout cas personnelles, hein, sur les grands sujets de société. Je ne me l'interdis plus, mais c'est parce que j'ai 30 ans de métier derrière moi.
C'était
aussi
différent pendant le journal télévisé que vous avez présenté sur TF1 pendant 4 ans.
Vous êtes sous une cloche et vous interdisez absolument tout pendant que vous faites le 20h. Vous êtes sous un miroir grossissant terrible où le moindre de vos faits et gestes, la couleur de votre chemise est scrutée et la moindre parole peut provoquer un incident national. Donc, non, le 20h, vous oubliez. Je pense même que je suis devenue transparente pendant cet exercice.
C'est incroyable parce que vous me tendez une perche. Est-ce que je peux vous poser cette question ? Finalement, est-ce que ça relève du journalisme de présenter un journal télévisé ?
Alors oui, parce que je ferai une insulte à tous mes collègues qui l'exercent aujourd'hui et que j'aime infiniment comme Gilles Boulot et Anne-Sophie Lapix. C'est du journalisme.
Voilà, c'est moi qui creuse. Là,
non, mais
qui pose
évidemment, c'est du journalisme. Parce qu'on est quand même le patron de son édition, on choisit les sujets. Mais finalement, faire de l'antenne et du journalisme comme je le fais aujourd'hui en toute liberté pendant 2 heures en recevant des invités, 6 invités par heure, est beaucoup plus intéressant éditorialement. Quand vous êtes au 20h, vous êtes dans un carcan, vous êtes dans une camisole, vous devez rentrer dans un moule et la liberté, la marge de manœuvre est extrêmement réduite. Donc je suis encore une fois très heureuse dans ce que je fais aujourd'hui. Je l'étais moins quand je faisais le 20h de TF1 que j'ai choisi de quitter.
Laurence Ferrari, le boulot d'un journaliste politique à la télévision n'est pas d'être aimé. Et pourtant, les chaînes de télé préfèrent que les journalistes qui animent leurs émissions politiques soient populaires. Alors, il est où l'équilibre ?
Il ne faut pas faire ce métier pour être aimé. Moi, je suis très structurée personnellement. J'ai été aimée par mes parents. Donc, émotionnellement, je n'avais pas besoin de ça. Je suis quelqu'un de défi et de challenge. Genre, j'ai toujours fait ce métier en me disant, tiens, et si tu osais ça, est-ce que tu en es capable ? En revanche, c'est un métier où on est mis en avant et où on est starisé.
Oui.
Je suis arrivée à TF1 à un moment où on starisait encore les présentateurs de l'information.
On le fait moins maintenant ?
Moins, beaucoup moins. C'est absolument évident. Mais je suis arrivée à l'époque où il y avait Patrick Poivre d'Arvor, Claire Chazal, Jean-Pierre Pernaut, c'était des stars. Et la machine TF1 a fait de nous des stars, un autre corps défendant, parce que moi je ne me suis jamais vécue comme ça. Moi je suis journaliste et je me vivrai toujours comme ça. Mais oui, on a été médiatisés. Et donc oui, il y a parfois des gens qui vous aiment, des gens qui ne vous aiment pas, évidemment. Mais il y a quelque chose avec le public qui se crée, qui se noue et qui est de l'ordre de l'affectif. Mmh. Quand je rencontre les gens dans la rue, ça m'arrive absolument tous les jours, il y a toujours un dialogue très chaleureux. Je fais partie de la famille.
Et il paraît même qu'il arrive encore aujourd'hui en 2019 que certains vous imaginent toujours sur la une.
Complètement. Alors comment ça se passe à TF1 ?
Vous avez décidé de partir il y a déjà 7 ans de ça.
Déjà 7 ans, mais c'est ça. On est entré dans la mémoire collective des gens. C'est-à-dire, en rentrant, je suis restée 4 ans tous les jours chez eux à la même heure. On fait partie de leur vie, de leur grande famille. Et donc, j'ai des manifestations extrêmement chaleureuses de gens où que j'aille sur le territoire en me disant « Mais comment allez-vous ? Ah, vous me manquez ? Ah, mais c'est super ce que vous faites aujourd'hui ! Ah, mais vous êtes beaucoup mieux en vrai qu'à la télé !» Donc ça, j'aime bien.
Jusqu'à 16h, vous écoutez « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ». Isabelle Morizet reçoit aujourd'hui la journaliste Laurence Ferrari.
C'est une Laurence Ferrari mélomane qui nous donne rendez-vous du 28 au 31 août à Annecy pour le festival Variations Classiques. Et cet après-midi, eh bien, elle est mon invitée. Chère Laurence, on peut difficilement avoir un nom plus italien que Ferrari. Qu'est-ce que l'Italie a fait couler dans vos gènes qu'on ne peut pas forcément deviner sur un plateau de télé quand on vous regarde ?
Je suis très...
Vous aussi blonde.
Oui, oui. Alors, je suis très impulsive. Je suis comme une Italienne. Une Italienne, ça pleure pas, ça gimpe pas, ça claque les portes, ça crie et ça chante. Voilà, j'adore cette définition de la femme italienne qui me correspond assez. Donc, je suis très impulsive. J'ai beaucoup travaillé sur moi pour ne plus laisser cette impulsivité m'entraîner.
Vraiment ?
Parfois un peu loin. Oui, oui. J'ai toujours beaucoup travaillé et mené ma vie avec des impulsions, un instinct profond. Et voilà, l'Italie, c'est ça. L'Italie, c'est la couleur. C'est la musique, c'est les repas de famille où on chante de l'opéra et voilà, où on chante la bohème de Puccini. Donc l'Italie, c'est ça, oui. C'est toute cette culture-là qui m'a baignée dans mon enfance et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui.
Alors, votre famille était originaire de Bologne, au nord de l'Italie, pas très loin de Parme et de Florence, dans la région historique d'Émilie-Romagne. Pourquoi est-elle venue s'installer en Savoie ?
Oh, je pense comme tous les Italiens qui ont immigré entre les deux guerres pour trouver du travail. Il n'y en avait pas en Italie. Il y avait voilà, un régime politique qui ne convenait pas à mes grands-parents. Ils ont fait comme nombre d'Italiens. Ils ont traversé les Alpes et ils se sont arrêtés juste derrière, en Savoie, à Aix-les-Bains, où je suis née, où j'ai une grande partie de ma famille. Mais ils ont emmené avec eux une part d'Italie. Et encore
évidemment.
ça parlait italien chez moi. J'ai grandi avec cette langue dans les oreilles. Que je parle très mal, je précise tout de suite. Parce que, les immigrés italiens, mon père a voulu que j'apprenne l'allemand pour être dans les bonnes classes. Donc, à la fois, je le remercie et en même temps, je ne maîtrise pas très bien la langue italienne.
Alors, puisque vous évoquez votre papa, travail et méritocratie ont donc été les carburants d'une conquête sociale, puisque votre père principal de collège a été pendant de nombreuses années député maire d'Aix-les-Bains. Laurence Ferrari, on a une obligation de réussite quand on est la fille du député maire.
Sans doute. Sans doute, et j'ai toujours rêvé d'être le fils de mon père. Je suis l'aînée des trois filles. Et pour lui plaire, effectivement, je crois que j'étais prête à relever tous les défis. Et tout au long de ma carrière, il a disparu il y a quelques années, mais il m'a suivi tout au long de ma vie. Il m'a toujours dit, continue, accroche-toi, va au plus haut que tu pourras aller, ma fille. Et c'est quelque chose, oui, qui m'a toujours portée, effectivement. C'était un grand lettré, il était professeur de français, latin, grec. C'est grâce à lui que j'ai accédé à la littérature et la poésie. Donc oui, c'est quelque chose qui est de l'ordre... pour moi, du modèle absolu dans ma vie.
Et la politique, parce que les rêves, les affres, les ambitions, le sacerdoce et puis les trahisons du milieu politique, j'imagine que vous les avez appris auprès de votre père député-maire.
Absolument. Et au fond, si je suis intervieweuse politique, c'est pas par hasard, j'ai vécu à ses côtés ce que vit une famille d'hommes politiques, c'est-à-dire l'absence, le père qui est happé par... les meetings, par les réunions du conseil municipal très tard, puis les soirs de défaite. Alors les soirs de victoire, tout allait bien, la maison était pleine et le champagne coulait à flot. Les soirs de défaite, on était seul
et silencieux.
Et le lendemain matin, j'ai des souvenirs très précis, Isabelle, d'être dans la rue avec mon père et de voir les gens changer de trottoir pour ne pas lui dire bonjour. J'étais mineure encore et ça m'a marquée à vie. Et je sais que, pareil, dans les couloirs des supermarchés, les gens changeaient de rayon pour ne pas nous saluer les lendemains de défaite. C'est une leçon, l'échine en est droite à vie, et je vous avoue que cette leçon, elle me sert aujourd'hui encore.
Oui, parce que pour se forger une carapace, il n'y a rien de
c'est
plus efficace.
C'est très efficace.
Alors, pourquoi n'êtes-vous pas d'abord allé vers le journalisme ? Parce que votre vocation première, en fait, c'était la médecine, c'est ça ?
Absolument.
Et puis vous avez très vite bifurqué.
Oui, parce que je n'étais absolument pas scientifique. Je rêvais d'être chirurgien. Depuis que j'étais toute petite, je voulais être chirurgien. D'abord parce que c'était un métier qui n'était absolument pas réservé aux femmes à l'époque, donc ça me plaisait bien, justement. Et puis, voilà, sauver des vies, être utile, c'était mon but ultime. J'ai raté médecine empotée, et après je me suis dit, mais pourquoi t'es faite, ma fille ? Je ne savais pas très bien. J'ai fait une école d'attaché de presse, dans laquelle j'ai fait des stages dans la presse. J'ai commencé à Europe 2 à Lyon, et j'ai fait un stage à Europe 1, dont on a parlé il y a quelques
instants. Voilà, où vous êtes restée 10 ans.
Ça a été une révélation. J'ai tout appris. J'étais rien en rentrant à Europe 1. Je suis sortie, j'étais journaliste, c'est pas mal.
Alors, 10 ans à Europe 1, c'est au début de cette décennie que votre maman, Laurence Ferrari, votre maman bipolaire, a décidé d'en finir avec la vie. Vous aviez 22 ans. On est une fausse adulte à 22 ans pour assimiler une décision pareille.
Oui, on est une fausse... On est une enfant. Devant la mort de sa mère, on est toujours une enfant.
Voilà.
Après, le choix a été très vite fait pour moi, de soit de culpabiliser, soit de continuer à aller de l'avant. C'est le deuxième choix, évidemment, que j'ai choisi. Et puis, de me mettre en tant qu'adulte, parce que malgré tout, à 22 ans, on est quand même adulte, d'essayer de comprendre les raisons qui amenaient une femme de 43 ans à mettre fin à ses jours. Je vous avoue que je n'ai encore pas résolu cette histoire-là, mais elle ne m'a pas empêchée d'avancer. Et puis, il y avait la rédaction d'Europe 1. Et c'est aux journalistes, dont certains encore travaillent ici, que je dois ma survie. Ce cocon, cette enveloppe qu'ils ont créée autour de moi, cette solidarité professionnelle et amicale, m'ont littéralement sorti de mon malheur et mon chaos pour m'emmener vers la vie, le travail, et avancer, et avancer, et avancer toujours.
Mais qu'est-ce que, dans votre vie d'adulte, vous avez sans doute inconsciemment réalisé par rapport à votre maman, et non pas pour vous, comme si elle était toujours là pour vous observer?
Je pense que j'ai beaucoup réalisé en fonction de mon père, en réalité.
En réalité,
je crois que
oui.
Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était par rapport à lui. Voilà.
Vous êtes la fille aînée de trois sœurs, c'est ça?
Absolument.
Et vos deux autres sœurs sont dans des métiers très très différents du vôtre?
Elles sont plus ou moins dans la communication, les relations publiques, non. On n'est pas très très éloignés en termes de métier, on est surtout très proches, très fusionnels. Ce sont mes meilleures amies, ce sont, voilà, encore une fois, nous formons un trio absolument inséparable.
Mais vous êtes devenue leur maman de substitution.
C'est pas possible. Oui, de substitution. On ne peut pas devenir la mère de ses sœurs. Elles me l'ont bien fait comprendre à l'époque parce qu'elles étaient de jeunes adolescentes et croyez-moi, ça n'a pas été facile tous les jours. Non, j'ai essayé de trouver ma place, cas, évidemment, dans une famille meurtrie, en étant à la fois un recours, quelqu'un qui un peu recadre, mais en ne prenant pas une place qui n'était pas la mienne. Donc non, ce n'était pas simple, mais on a réussi à panser nos plaies et à rester unis autour de notre père.
Europe 1.
C'est en compagnie de Laurence Ferrari qu'on se promène cet après-midi. Laurence Ferrari, qu'on retrouve quotidiennement sur CNews, qu'on retrouve quotidiennement sur Radio Classique et qu'on ira écouter comme récitante, et oui, d'un Pierre et le Loup tout à fait inattendu, remanié cet été au Festival d'Annecy. Variation classique du 28 au 31 août. Mais pour l'heure, on est ensemble et c'est bien. Alors on fait une pause très courte. À tout de suite.
Cette année, le Festival de musique classique d'Annecy offre une carte blanche à Laurence Ferrari. L'occasion d'en parler au micro d'Isabelle Morizet. Vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie jusqu'à 16h sur Europe 1.
Laurence Ferrari, journaliste politique, mais pas que. Et cet après-midi, mon invité, Laurence Ferrari, ceux qui imaginent que vous avez découvert la musique classique en épousant le violoniste virtuose Renaud Capuçon, eh bien, c'est que la musique classique, justement, a infusé toute votre enfance, puisque votre père jouait du violon, du violoncelle, comme votre grand-père, et vous, vous jouez du piano depuis l'âge de 5 ans. Donc ça a toujours été une espèce de respiration intérieure absolument nécessaire dans votre vie, la musique, aussi loin que remonte votre mémoire.
Oui, parce que je pense qu'in utero, déjà, j'écoutais le violoncelle de mon père, la guitare de mon grand-père. Oui, j'ai toujours baigné dans cette musique-là. On écoutait beaucoup de classiques à la maison. Un peu d'Yves Montand quand même de temps en temps, mais beaucoup, beaucoup de classiques. Et puis on chantait beaucoup, hein, comme je vous l'ai dit, dans les familles italiennes, on chante beaucoup d'opéras ou
d'air folklorique.
Je vous dis, la bohème ou des chants italiens traditionnels de la région de Bologne. Et puis j'ai fait du piano tout de suite, j'ai tout de suite été attirée par l'instrument. Alors, de façon amateur, j'en ai fait jusqu'à mes 18 ans au conservatoire. Et c'est quelque chose qui, effectivement, a toujours baigné ma vie. Mes enfants font de la musique, je leur ai toujours dit, c'est pas négociable. Ça n'est pas négociable, la musique, vous en ferez jusqu'à vos 18 ans. Après, vous ferez ce que vous voudrez. Ils ont tous fait du piano.
Alors, vous avez fait du piano, vos enfants également. Votre père jouait du violoncelle. Mmh. Ce n'est pas anodin. On joue plus fréquemment du piano ou de la guitare. Mmh. Donc, c'est un instrument très ardu, le violoncelle.
Oui, mais très grave, très beau. J'adore la voix du violoncelle. Moi, j'aime encore plus celle du violon, et vous imaginez pourquoi. Mais j'adore la modulation très grave du violoncelle. Mon grand-père était violoncelliste. Il jouait à l'époque au cinéma muet d'Aix-les-Bains, dans la fosse. Vous savez, il n'y avait pas encore la sonorisation.
Et il accompagnait
dans
l'orchestre.
Il accompagnait les films muets. Donc c'était assez extraordinaire. Et mon père a été violoncelliste, je pense, évidemment, pour faire comme son père.
Alors revenons à vous. Laurence Ferrari, ensuite vous êtes tournée vers la musique romantique, comme Brahms ou Mendelssohn. Mais quelle musique écoutez-vous depuis 10 ans que vous êtes l'épouse de l'un des plus brillants violonistes de son temps, Renaud Capuçon? À la maison, quelle est la musique dès le matin, vous chavire? Que choisissez-vous d'écouter? Parce que dans un entretien, il y a peu de temps, j'ai entendu votre mari dire que en fait, il écoutait de moins en moins de musique chez lui.
Alors, effectivement, il faut qu'on trouve un terrain d'entente sur la musique. Parce que si moi, je veux mettre ses disques, il me dit « Ah non, arrête avec mes disques, j'en peux plus ». Si je veux mettre de la pop, il me dit « Ah non, je déteste ça ». Donc, on trouve un terrain d'entente sur Bach. Donc déjà, Jean-Sébastien Bach, tout va très bien. Et puis, il y a le jazz. Voilà. Et donc, le terrain d'entente, c'est le jazz. En tout cas, c'est tout ce que j'aime. C'est Nora Jones, Diana Krall, Stacey Kent. Voilà, il y a toute une série de chanteuses de jazz. Alors, c'est un peu moderne, mais
c'est pour
que
ça
j'aime
que
beaucoup.
Vous avez ouvert la porte au jazz pour ce fameux festival d'Annecy,
absolument,
qui va se dérouler du 28 août au 31, qui vous a laissé carte blanche. Et alors là, vous invitez donc des artistes de jazz contemporains.
Oui, c'est le jazz band de Thomas & Co. Et on va revisiter ensemble le Pierre et le Loup de Prokofiev, qui a été fait par des immenses artistes, évidemment, Peter Ustinov, Gérard Philippe. J'ai grandi avec la version de Gérard Philippe dans les oreilles de Pierre et le Loup. Donc j'ai hâte d'être au moment où on va répéter, où le jazz va répondre. C'est merveilleux, Pierre et le Loup. C'est cette façon extraordinaire qu'a eu Prokofiev de permettre aux jeunes enfants de reconnaître qui le hautbois, qui la flûte, qui les instruments de l'orchestre. Et là, le revisiter façon jazz, je suis très impatiente.
Vous avez commencé à répéter
Pas encore.
Que vous êtes récitante de ce Pierre et le Loup nouvelle mouture le samedi 31 août. Vous avez commencé à travailler quand?
Là déjà, il faut assimiler le texte. Hein, vous le savez parfaitement, vous êtes une grande professionnelle aussi. Il faut le sentir, il faut le comprendre, il faut en voir les articulations, les respirations. Et puis après, il y a toute la coordination avec les musiciens, parce que c'est cette rencontre-là qu'il va falloir créer sur mesure. C'est que les instruments répondent au récitant et le récitant doit se caler sur les musiciens. Donc c'est tout un travail de grande précision.
Vous allez vous faire conseiller par votre virtuose de Marie-Renaud Capuçon ou pas?
Non, c'est parce que c'est totalement organique, il faut le sentir. Il faut sentir la musique, il faut sentir le bon moment où il faut entrer dans la partition, le moment où il faut en sortir. Donc non, ça sera moi qui vais travailler toute seule avec les musiciens.
Et alors, quelle autre surprise réjouissante vous nous avez concoctée donc, pour ce festival Variation Classique?
Il y aura beaucoup de jeunes artistes et c'est important, c'est vraiment le fil de ce que je fais moi dans Entrer les artistes sur Radio Classique tous les jours de midi à 2h. C'est de mettre en lumière tous ces jeunes musiciens qui arrivent, qui bousculent les codes du classique, qui sont violonistes, violoncellistes, pianistes, c'est très important. Donc voilà, on va essayer de mettre en lumière aussi ces jeunes talents qui font la musique d'aujourd'hui.
Et puis, il faut créer de plus en plus de passerelles entre les genres musicaux, n'est-ce pas?
Il faut. Et puis, ces jeunes musiciens, ils veulent que leur musique, elle soit accessible à tout le monde. Ils ne se disent pas, je veux un public de seniors. Ils se disent, mais moi, je veux que des jeunes de mon âge, qui ont 18 ans, puissent venir au concert de classique, même avec des baskets, même avec un jean, même en applaudissant entre les mouvements. Parce qu'on a l'impression que le classique est réservé à une élite très éduquée. Et non, la musique et le classique, c'est ouvert à tout le monde. Il faut pouvoir venir comme on est.
Certes, mais c'est une musique qui n'est pas, d'une manière toujours très évidente, facilement abordable.
C'est faux. Je me bats contre ça et beaucoup de musiciens classiques aussi parce qu'au fond, c'est une idée reçue. Il faut qu'on se dise qu'on peut aller à la Philharmonie de Paris, qui est un immense succès depuis qu'elle a ouvert.
Je ne parle pas de manière financière.
Non, pas du tout, parce qu'il y a des places très peu chères. Vraiment, il y a des places à 5-10 euros maintenant sur les concerts de classiques. Il y en a qui restent très très chères, mais il y a vraiment un effort qui est fait par un certain nombre de salles d'orchestre. Je pense à l'Orchestre National de Lille aussi, qui fait des soirées spéciales pour les jeunes. Ils viennent avec, ils font des nuits de la musique. Alors, ils entrent dans le hall du concert, il y a la techno, ils rentrent, ils écoutent une symphonie de Mendelssohn avec un coussin, un oreiller pour faire une soirée pyjama. Il y a mille façons de faire entrer le jeune public dans le classique. Et il faut que tout le monde y ait accès une fois dans sa vie.
Bon, je comprends pourquoi votre émission fonctionne si bien ici et si appréciée sur Radio Classique, donc tous les jours de midi à 14h, parce que vous en parlez avec une énergie, une conviction, un carburant absolument phénoménaux. On fait une pause très courte et on retrouve mon invité cet après-midi, Laurence Ferrari.
15h32, la suite de Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet reçoit Laurence Ferrari.
Ce sont toutes les vies de Laurence Ferrari qu'on découvre cet après-midi. Laurence Ferrari, à qui le festival Variation Classique à Annecy a donné carte blanche pour sa programmation du 28 au 31 août. Alors, chère Laurence Ferrari, vous êtes une journaliste politique mariée à un violoniste virtuose mondialement connu, Renaud Capuçon. Il a amené sans doute la musique encore plus au cœur de votre vie, même si déjà vous étiez mélomane. Mais vous, avez-vous amené la politique au cœur de la sienne?
Je pense qu'il était comme moi, il aimait déjà la politique. Mais évidemment, il est plongé dans le grand bain de la politique depuis que nous sommes mariés. Donc oui, je pense que je lui ai amené un certain nombre de clés, mais qu'il lit beaucoup. C'est quelqu'un qui lit énormément tout ce qui est essais, biographie politique, et tous les journaux. Il est d'ailleurs parfois au courant avant moi, ce qui m'agace prodigieusement quand il me dit « Mais tu es au courant que Bruno Le Maire a dit ça ?» Je dis « Non, et arrête, je devrais le savoir avant toi. » Donc c'est des passions, voilà, communes qui se nourrissent l'une l'autre, mais je lui suis infiniment reconnaissante de m'avoir permis, moi, d'entrer dans le monde des artistes, parce que c'est quelque chose d'aimer la musique et de l'écouter, puis c'est quelque chose ensuite de rencontrer les artistes, d'abord le privilège de rencontrer Martha Argerich, Daniel Barenboim, tous les grands de ce monde-là, moi, qui sont des icônes, et de pouvoir dialoguer avec eux, et ça c'est un honneur immense.
Alors il y a dans la vie quotidienne d'un virtuose du violon un inlassable combat au nom du dépassement de soi et puis de la perfection non atteignable dans l'interprétation d'une œuvre. Et tout ça, ça nécessite bien sûr toujours et sans cesse de travailler l'instrument. Comment vos vies réciproques s'accommodent-elles l'une de l'autre, puisqu'elles sont si différentes ?
Je pense que ma grande maturité nous aide beaucoup dans cet exercice quotidien qu'est la musique pour un virtuose. C'est-à-dire qu'il peut rentrer de 10 jours de concert à la maison, poser sa valise et me dire « il faut que je travaille le violon ». Voilà. Et donc, il faut que je le comprenne, il faut que je le dise « ok, vas-y, va travailler le violon, même si ça fait 10 jours qu'on ne t'a pas vu ». C'est quelque chose, voilà, c'est sa passion, il faut qu'il en fasse très régulièrement.
Parce qu'effectivement, votre mari donne des concerts dans le monde entier, Renaud Capuçon, donc il est très souvent entre deux fuseaux horaires. Hors vacances, est-ce que vous voyez si souvent que ça ? Il sillonne la planète en permanence. Alors, il est sollicité partout.
Hors vacances, non. Il voyage plus de la moitié de l'année. Donc, c'est grâce à WhatsApp, Skype, on arrive à se voir tous les jours. Voilà. On est heureusement qu'il y a cette nouvelle technologie pour nous permettre de nous voir, et notamment pour notre petit garçon. Mais après, non, voilà, c'est sa vie. Je respecte sa passion. Il connaît la mienne. Moi, je suis sédentaire de par mon métier. Donc voilà, tout ça se fait en harmonie totale.
En harmonie, dit-elle. Voilà. Votre fils Elliot a 9 ans. Vous avez deux grands-enfants d'une autre union. Quand Baptiste, 26 ans, et Laetitia, 24 ans, vont au concert, donc c'est pour écouter du classique ou plutôt de l'électro ? Sincèrement.
Ils viennent beaucoup au concert de leur beau-père, Renaud, et ils aiment beaucoup tous les deux la musique classique, parce que je vous ai dit, ils font du piano tous les deux.
Voilà.
Après, évidemment, ils vont écouter des musiciens qui leur correspondent, et de la house, et de la techno, bien sûr.
Alors, c'est amusant parce que vous nous avez dit effectivement qu'ils ont étudié le piano jusqu'à l'âge de 18 ans, et malicieusement, je vous ai entendu un jour devant un micro confier « Bon, comme on ne sait jamais de quoi demain sera fait, et ben voilà, ils auront déjà éventuellement au moins un métier dans les mains. »
Ils ont un métier dans les mains. C'est tellement important. Ils
pourront
toujours faire du piano-bar.
Pianiste.
Voilà, piano-bar, aller gagner leur vie, etc. Mais je suis assez contente parce que je retrouve dans leur playlist, dans ce qu'ils écoutent, beaucoup de mes musiciens préférés. Moi, j'aime Michel Berger, j'aime toute la chanson française. Et je suis très heureuse de voir « Mais tu connais Francis Cabrel ? Tu connais Michel Berger ? » ?»« Bah oui, maman, tu l'écoutais. » Donc j'aime bien aussi le fait que voilà, je retrouve dans ce qu'ils écoutent et dans leur goût.
Ça tourne.
J'aime, voilà.
Alors, revenons à votre couple, Laurence Ferrari. On ne demande certainement pas à son mari violoniste, de réputation internationale, de faire du bricolage à la maison. Alors, quelles sont les précautions, voire les interdits, lorsqu'on vit avec un homme dont les mains sont certainement assurées, comme sont assurés d'ailleurs les violons si précieux et anciens sur lesquels il joue ?
On ne lui demande rien. C'est plus simple, comme ça on n'est pas déçus. Non, non, évidemment que le bricoler, c'est
même
absolument...
Pas, même pas en rêve.
Voilà, même pas, il ne saurait pas et je ne lui demanderai pas.
Et j'imagine qu'il s'interdit de cuisiner également, puisque se couper le bout du doigt, ça peut se révéler gravissime pour un violoniste, on est d'accord.
Oui, mais alors, je vous rassure, cette envie ne l'a jamais saisie, ne le saisira jamais pour ce qui est de la
Parce
cuisine.
Parce que vous cuisinez trop bien.
Non, non plus, mais on est très tranquille, il s'approche assez rarement de la cuisine.
Mais une porte qui claque, enfin, se coincer doigts... Mais c'est...
Non, en fait, il n'y pense pas. Il a une vie très normale. Vous savez, c'est quelqu'un qui n'est comme moi en Savoie, qui est sportif, qui a fait du ski toute sa vie, qui est très ancré dans la réalité. Donc non, il ne vit pas dans une bulle. Il fait du sport, il fait du ski, il vit normalement. Bon, après, il fait attention
à ses mains. Ski.
Il fait du ski, voilà. On ne devrait pas trop le dire, mais oui, il en fait. Et il fait très attention à ses mains et son violon, bien sûr.
De quelle manière accompagnez-vous votre époux Renaud Capuçon dans le choix de ses projets ?
Je le conseille de temps en temps quand il me le demande, mais après, oui, évidemment, c'est lui qui sait.
Alors, par exemple, l'idée pour son tout dernier album d'enregistrer les plus belles musiques de films qui vont du thème de la liste de Schindler à celui de Out of Africa. C'est une idée que vous lui avez soufflée.
J'ai tellement insisté, ça.
J'avais deviné.
J'ai insisté, ça fait des années, je lui dis, mais fais cet album. Et il y a toujours cette espèce de petite réticence des musiciens classiques à faire... un peu, c'est pas du crossover, mais enfin c'est d'aller un tout petit peu vers un autre répertoire, et alors que ce sont des grands compositeurs.
Mais ça, c'est ce que Roberto Alagna a fait, par exemple, avec l'art lyrique, n'est-ce pas ?
Mais on peut le faire à un certain niveau de sa carrière. Voilà.
Voilà.
Il voulait attendre d'être au niveau où il est pour se permettre toutes les libertés, et il a bien raison.
Alors, Laurence Ferrari, vous dites, en plus, non seulement c'est effectivement un acteur à part entière, mais vous dites que la musique est le seul langage universel. Elle met l'humanité dans une même communion. Votre matériau à vous, c'est la politique. Donc c'est un sujet, lui, très clivant. Mais tous les deux, Renaud Capuçon et vous, vous tendez vers une sorte de vérité, en fait.
Oui, mais la politique est aussi une affaire d'humanité et au fond, les mêmes problèmes se posent dans tous les pays de la même façon, avec encore une fois la protection des minorités, les droits des femmes, les droits des enfants, ces questions-là, elles se posent partout sur la planète.
Mais elle est plutôt oxygène et clivante, la politique. Enfin, telle qu'elle est vécue,
oui, mais
dans
pas
les émissions de débat.
Elle peut être. Moi, je la vis pas comme ça, parce que j'aime la politique et je trouve que, encore une fois, elle est aussi génératrice de solutions. Et c'est elle qui nous permettra de mieux vivre, en tout cas ensemble, dans notre pays. Je le souhaite sur notre continent dans les années à venir. Donc moi, je la vois pas comme quelque chose d'anxiogène. Je cherche les solutions. Voilà, ce que j'essaye d'obtenir de mes interlocuteurs, c'est des solutions et, si possible, dans l'authenticité. Et donc, je trouve que tout ça va dans la même humanité, dans la même espèce de grande matrice dans laquelle nous vivons tous.
Europe 1.
On se balade avec Laurence Ferrari cet après-midi et elle n'est pas terminée cette promenade. Chic, on se retrouve tout de suite.
Une conversation d'une heure pour évoquer le parcours d'une personnalité et son actu. C'est bien, il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. On retrouve tout de suite Isabelle Morizet et son invitée, la journaliste Laurence Ferrari.
Laurence Ferrari, je disais au début de cette conversation que l'adrénaline vous va bien. Et l'adrénaline, c'est un carburant auquel vous êtes habitué depuis très longtemps. Pendant 4 ans, vous avez été l'héroïne du journal télévisé le plus regardé d'Europe à 20h sur la Une. Pourquoi en êtes-vous partie de votre propre chef sans que la direction de TF1, comme elle l'a fait avec Poivre d'Arvor, n'en intime l'ordre ?
C'était une question de survie, je crois que pareil. Mon instinct m'a dit à un moment qu'il fallait que je parte pour faire autre chose, parce que j'ai finissé par m'étioler dans cet exercice. Aujourd'hui, quand je réécoute les journaux que j'ai faits à l'époque, même ma voix, je ne la reconnais pas. Elle est blanche, elle ne module plus. Je pense que j'étais arrivée à un tel niveau de pression, pression extérieure, pression intérieure, avec toutes les pressions qui s'exerçaient sur moi au même moment. Et je me suis dit, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je sais que je peux faire ce métier-là différemment en étant moins exposée. Et la pression sur ma vie privée était énorme aussi. Le fait d'être poursuivi par les paparazzi, honnêtement, on ne va pas en faire des caisses parce qu'il y a des gens qui sont bien plus malheureux que ça. Mais c'est une pression qui existe et qui est très désagréable pour l'ensemble de la famille. Donc le choix que j'ai fait, j'ai bien réfléchi, je l'ai fait en toute conscience, avec évidemment l'assentiment de mon mari Renaud Capuçon. Mais c'était un choix de survie. Voilà. Mmh. Je pense que j'aurais fini par m'abîmer dans cet exercice et je ne voulais pas. Je veux garder cet enthousiasme, ce côté, je suis heureuse d'aller au travail. D'abord, je ne fais pas un travail, je fais ma passion. Donc voilà, je voulais absolument garder cette flamme. Et j'ai réussi ça en respectant les gens que je quittais et mes patrons à l'époque à TF1 et en allant vers un nouveau projet dans le groupe Canal+.
Alors l'audience de tous les JT est en baisse, on pourrait même parler d'une baisse drastique à cause de la TNT, à cause des chaînes d'infos et puis à cause d'Internet. Vous les trouvez obsolètes, ces journaux télévisés dont le format n'a pratiquement pas bougé depuis 70 ans puisque le premier journal télévisé a été diffusé en 49 avec une structure qui a vraiment très peu évolué?
Je ne les trouve pas obsolètes parce que d'abord, je regarde beaucoup ce qui se passe aux États-Unis. Il y a toujours une espèce de JT, mais qui est aux alentours de 18h, 18h30, puisque leurs habitudes de vie sont un peu différentes des nôtres. Mais il est beaucoup plus court, leur journal fait 20 minutes et il est entrecoupé de 3 pubs. Bon, ce n'est pas évidemment le cas chez nous et heureusement. Mais le journal télévisé, quand le générique résonne, c'est le moment, un moment symbole pour les Français. C'est le moment où tout le monde se rassemble devant la télé pour dîner ou pour déjeuner, ça dépend
du 13h ou du 20h. Déjà parce qu'il y a plus grande conscience politique en France qu'aux États-Unis.
Oui, et puis ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre patrimoine. C'est le moment où on se rassemble. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des écrans sur tous les téléphones portables et les consoles de nos enfants, mais ça reste quand même quelque chose qui structure la vie quotidienne des Français. Alors, il faut qu'il mute, j'en suis convaincue qu'il est beaucoup trop long, je le disais déjà à l'époque, 35 minutes, ça n'existe pas, c'est pas possible, c'est trop long, surtout que honnêtement, il n'y a que 10 minutes d'infos réellement dans un journal qui en fait 35.
Oui.
Après, on passe sur du magazine. C'est très agréable, c'est très intéressant.
En fait, il y a de moins en moins d'infos.
De l'info, voilà.
Et puis, il n'y a pas d'infos internationales.
Il y en a, si, dans les grands journaux aussi. Il y en
assez
a,
peu.
Si. À la fois sur TF1 et France 2, ils font des sujets. Mais en revanche, le journal doit muter. Moi, je pense qu'il continuera à exister. Mais c'est évident qu'il va falloir. Mais le problème, c'est que les deux grandes chaînes TF1 et France 2 sont dans une telle concurrence qu'ils savent bien que le premier qui va réduire son journal va perdre un nombre de parts
alors,
de marché très important. Donc, personne ne le fera.
Vous allez nous répondre, Laurence Ferrari. Est-il vrai que, en fait, lorsqu'on présente un JT, par exemple, on est sur TF1, il y a un écran de contrôle caché sur lequel on peut avoir un œil d'une manière très aisée et qui nous montre, seconde après seconde, ce que propose l'autre journal et qu'on peut changer, inverser les reportages pour recapter le chaland qui passe en fonction de ce que fait l'autre chaîne.
Non, alors c'est assez rarement dans ce cas-là. Mais en revanche, avoir un œil sur ce que fait la concurrence, je le fais tous les soirs sur CNews, je vous le dis, simplement pour voir si on loupe un truc, c'est tout. Après, on ne peut pas perturber un conducteur qu'on a travaillé pendant une journée juste parce qu'on voit qu'il y a un sujet sur France 2 qu'on n'a pas fait. En revanche, ça nous donne une idée de, voilà, de ne serait-ce la façon dont ils traitent l'information. Donc oui, évidemment, on a toujours un œil sur la concurrence, mais sans forcément la copier. C'est juste une espèce de repère pour nous.
Alors, du lundi au jeudi sur CNews, vous débattez des sujets d'actu dans une émission baptisée Punchline, et puis le vendredi à 21h, ça se dispute. C'est vous qui gérez la ligne éditoriale. Vous choisissez à la fois les sujets, les intervenants, les experts, les angles qu'on va mettre en lumière.
J'ai une liberté éditoriale totale que je n'ai sans doute jamais eue dans ce métier. Donc je suis comme un poisson dans l'eau dans cette rédaction de CNews, que j'aime infiniment, avec 6 invités par heure. On brasse absolument tous les sujets de la journée. On se base sur les punchlines, c'est-à-dire les phrases fortes, chocs prononcées par les hommes ou femmes politiques. Et après, on rentre dans le dur, dans nos débats avec des débatteurs. C'est un exercice absolument passionnant, extrêmement riche, extrêmement varié. Et en plus, une fois de plus, sur une chaîne info où le moindre événement peut nous amener à partir en breaking news.
Ouais.
C'est-à-dire que je me rappelle encore, comme si c'était hier, de la spéciale Emmanuel Macron qu'on avait préparée il y a quelques mois. Le soir, il devait prononcer son discours. Et puis, j'ai vu sur mon téléphone, sur Twitter, de la fumée s'échapper du toit de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Voilà.
J'ai alerté ma rédaction en chef en disant « Attends, regardez vite ce qui se passe. » Et en un quart d'heure, on avait basculé sur une spéciale Notre-Dame de Paris. C'est ça aussi le sel de ce métier sur les chaînes info. C'est qu'on est dans l'instantanéité. Alors, certains nous le reprochent, évidemment, mais c'est aussi ce qui fait la grande réactivité de ce
média. Bien sûr. Les 2 heures quotidiennes passées de midi à 14h sur Radio Classique, ben finalement... Pardonnez-moi la formule, mais j'ai presque envie de dire que c'est pour ouvrir vos chakras.
C'est un bain d'huiles essentielles, ma chère Isabelle. J'ai 2 heures de relaxation avant de monter sur le ring et d'enfiler mes gants de boxe.
Bon, sérieusement, Laurence Ferrari, tout ça, ça vous fait quand même plus de 20 heures d'émission en direct par semaine. C'est rare. Comment vous résistez, en fait? Parce que vous avez une mine absolument éblouissante. On dirait que vous revenez de vacances, mais vous avez une vie qui doit être orchestrée, organisée à la seconde.
Alors, oui, absolument. J'ai une vie qui est chronométrée du moment où j'ouvre l'œil jusqu'au moment où je le ferme. Je fais beaucoup de sport, parce que sinon, ce n'est absolument pas tenable. Je cours 2 ou 3 fois par semaine. C'est indispensable pour évacuer le stress, parce qu'on est un métier très sédentaire. On est devant nos écrans, devant nos micros. Et puis, c'est un rythme de marathonienne. Au fond, voilà, j'ai une grande résistance et une appétence pour le travail dont on parlait au début de l'émission, qui ne se dément pas année après année. Donc, j'en profite, donc je suis en forme.
Et dans les débats politiques, les questions qui fâchent. C'est vraiment votre liberté à vous, derrière le sourire toujours polissé.
Oui, 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 j'adore ça. J'adore avec un grand sourire balancer les questions les plus hardes, mais dans un respect et dans une bienveillance quand même globale. Voilà, je ne suis pas dans, encore une fois, je n'aime pas aboyer sur mes invités, je n'aime pas les humilier, je n'aime pas les blesser. En revanche, quand un homme politique vient, qu'il a un mandat et élu par les Français, il doit des comptes à la nation.
Donc, bien sûr,
mais je suis en droit de lui poser des questions un peu cash.
On prend comment sa respiration quand on se lance dans une question qui va être prise par tous les médias et qui va faire blêmir son invité?
Mais écoute, quand c'est un président de la République, on se dit qu'il faut avoir un petit peu d'expérience, de background pour aller là où ça fait mal et en même temps y aller avec le bon ton et les bons arguments, parce que vous pouvez
bien
vous
sûr
faire envoyer dans les cordes en moins de 2. Il faut un tout petit peu d'expérience. Je crois que moi qui ai beaucoup milité pour la jeunesse dans ce métier, c'est pas mal d'avoir un peu d'expérience finalement, d'avoir 30 ans de journaliste derrière soi, ça peut aider.
On retrouve tout de suite Laurence Ferrari.
Il est 15h52, on retrouve Isabelle Morizet et son invitée Laurence Ferrari pour la suite et fin de leur entretien.
Laurence Ferrari, peu de gens des médias confient être catholique pratiquant. Comment la vivez-vous, cette vie spirituelle parallèle?
Bien, dans la sérénité, je ne l'affiche pas, notamment quand je suis à l'antenne, parce qu'on sait à quel point les sujets qui ont trait à la religion sont touchy et très compliqués à gérer.
Mais le
temps,
par exemple,
vraiment de ça
pour aller se recueillir.
Oui, c'est évident que c'est des moments de respiration interne, comme la musique. On a besoin de se ressourcer dans le calme. Le calme d'une église, c'est absolument quelque chose d'immatériel, quelque chose qui vous relie à quelque chose...
À une transcendance.
Une transcendance et une paix de l'âme qui est très importante à retrouver.
Bon, ce festival Variation Classique à Annecy du 28 au 31 août, festival qui vous a donné carte blanche pour programmer les musiques et les artistes qui vous chavirent, vous Laurence Ferrari, en fait, bah, il fait souffler un peu de poésie sur l'agenda dévoré de politique qui est le vôtre, non ?
Entièrement d'accord avec vous. Je remercie d'ailleurs Marianne Gossia qui m'a proposé ce festival. J'en fais un autre un mois après à Aix-les-Bains, donc ma ville natale, avec les nuits romantiques, le carnaval des animaux. C'est tout un pan de ce métier de récitante qui s'ouvre à moi. Et je vous avoue que ça me plaît infiniment d'utiliser ma voix pour autre chose que de donner des mauvaises nouvelles, peut-être pour dire un peu de poésie, raconter des nouvelles de Maupassant. Je trouve que c'est une très très belle voie d'avenir pour moi.
Et puis c'est presque le démarrage d'une carrière d'artiste, parce que là, vous faites de votre voix un instrument de l'orchestre.
Et un instrument par lequel passe l'émotion. Alors que aujourd'hui, ma voix, elle est ma raison. C'est-à-dire que je suis dans un exercice totalement rationnel. Or là, l'idée, c'est d'émouvoir. C'est d'emmener les spectateurs, voyez la déformation, les spectateurs dans une histoire avec ses rebondissements, ses moments tristes, ses moments gais. Donc voilà, c'est ça qui est assez merveilleux.
Il sera là pour vous applaudir, Renaud Capuçon ?
Il ne sera pas là parce qu'il sera en tournée dans le monde entier comme d'habitude. Mais je suis sûre qu'il regardera la captation après. Et on fera une répétition, évidemment, sans doute, à la maison.
Une répétition à la maison. Alors ça c'est magnifique.
J'avais fait un album où j'étais récitante. J'avais fait Babar de Francis Poulenc avec Jérôme Ducrot au piano et une petite pièce de violon avec Renaud Ferdinand le petit taureau, qui est absolument merveilleux d'Alain Ridou. Et on a eu le bonheur de faire sur scène et notamment pour notre fils, mais pas seulement. On l'a fait plusieurs fois en concert cette petite pièce ensemble et c'était génial. Voilà, c'était juste magique.
Elliot était heureux.
Heureux et nous aussi.
Bon, je vous souhaite un très très bel été.
Merci Isabelle.
Merci infiniment pour cette générosité solaire qui est la vôtre,
merci.
Laurence Ferrari. Donc, je rappelle les dates à Annecy. Déjà, si vous passez par Annecy, la région est superbe et la ville magnifique. Le festival Variation Classique du 28 au 31 août. Je vous embrasse, à bientôt.
Bel été Isabelle.
Et c'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet revient bien sûr demain dès 15h sur Europe 1 en compagnie d'une nouvelle invitée. C'est Ginette Colinca, la maman de Richard Colinca, le batteur du groupe Téléphone, qui fait paraître chez Grasset Retour à Birkenau, accompagnée dans l'écriture de ce récit par Marion Ruggieri. Europe 1.